Il y a trop de choses à dire.
Oui, mais c'est très intéressant. Excuse-moi, hein, de s'y répondre comme
Oh,
ça. Mais c'est vrai
merci,
que c'est
merci,
très. C'est très intéressant, donc c'est difficile. J'ai pas envie de te couper, moi, toi.
Non, non, mais il faut que je me retienne parfois. Et encore, hein, j'avais plein d'autres trucs en
Ah
tête.
bon? On va faire un spin-off avec spécial. Que Giscal, en fait. Le Giscal Show.
Jusqu'à le show,
Ou
ce serait cool.
qui va nous expliquer pendant 3 heures pourquoi le booking de Rousseff versus Titus O'Neil est correct.
Je vais vous démontrer que c'est correct.
C'est correct. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Catch Up, votre podcast favori. Nous sommes à l'épisode 8 aujourd'hui et nous allons parler ensemble du Raw du 13 juin 2016, hein, qui avait lieu à la Nouvelle-Orléans. Pour cela, je suis accompagné du célébrissime Giscal. Salut Giscal.
Bonjour Yann, bonjour tout le monde.
Alors, nous serons que deux aujourd'hui, car pour cause, on va dire, d'événements sportifs. À moins de vivre dans une grotte, vous savez lequel auquel je fais référence.
Et il est championnat du monde de curling en ce moment.
Exactement, et ben, comment dire, notre ami Hank représente l'équipe professionnelle de France, et donc est parti faire du curling, voilà, représenter nos couleurs. Donc oui, ça avait lieu à la Nouvelle-Orléans qui est dans quel état, Giscal, toi le spécialiste
Bon, tout le monde sait que la Nouvelle-Orléans est en Louisiane, puisque c'était bien sûr la ville qui avait accueilli WrestleMania 30. Donc je pense que nos auditeurs n'ont pas oublié ça quand
Et puis ceux qui ont oublié, bah, tu viens de leur rappeler
même.
et ils sont donc reconnaissants pour cette minute de géographie. Alors, un épisode, évidemment, c'est l'épisode du fameux Go Home Show, c'est-à-dire que c'est le dernier épisode de Raw avant le fameux pay-per-view Money in the Bank, un pay-per-view très attendu comme chaque année. Et celui-ci peut-être un peu plus que les autres, parce que nous le verrons un peu plus tard, il y a de sacrés prétendants.
Ah oui.
Et voilà, dont beaucoup de jeunes, ou en tout cas que ce soit la première ou leur deuxième participation. Toujours est-il que ce Go Home Show avait comme mission de me donner envie de. Oh merde. De
Bah
mourir.
alors,
De mourir.
donner envie de mourir, bon.
Nous donner envie, évidemment, de regarder, enfin, d'acheter le network. C'est plutôt ça, en fait, de vous abonner au network.
Absolument.
Donc. On ne change pas les bonnes vieilles habitudes, ce sont les New Day qui ouvrent cet épisode de Raw, en rappelant qu'ils défendront leur titre dans un Fatal 4-Way Tag Team Match, une
Absolument.
stipulation bordélique, on peut dire.
Oui, plutôt bordélique, en effet.
Bordélique, puisque je rappelle, à moins qu'ils aient changé les règles, mais dans un Fatal 4-Way Tag Team Match, il n'y a seulement que deux catcheurs qui sont autorisés à s'affronter en même temps, et les tags se font aussi bien sur son propre coéquipier que sur son adversaire.
Absolument.
La seule façon d'entrer dans le ring, c'est de taguer
C'est de taper une partie du corps de quelqu'un, mais celle que tu veux.
celle que tu veux. Donc, petite séquence humoristique. Là, c'est Kofi qui fait les frais de ses deux acolytes, puisqu'il se moque de la nouvelle paire de chaussures de Kofi, qui est la même paire de chaussures que le célèbre basketteur Curry, qui actuellement
Oui.
voilà, qui joue les finales de la NBA. Donc évidemment, le pauvre Kofi mange pas mal de vannes. D'autres spécialistes de la vanne débarquent, puisque Enzo et Cass apparaissent à l'écran. Et là, s'ensuit une sorte de battle, hein, de joute verbale entre les deux équipes, on va dire, deux des équipes les plus over du roster, de la division tag team. Alors, on n'échappe pas évidemment à la petite séquence un peu pleine de sous-entendus graveleux, puisque Enzo sous-entend qu'il a passé la nuit avec Francesca II, le trombone de Xavier Woods. Donc il lui a fait tout un paquet de choses que je ne vous décrirai pas forcément parce que on est dans la PG era, y compris pour ce podcast. Donc un peu séquence un peu tendue du coup entre les deux amants Xavier Woods et Enzo Amore. Et au moment où Kofi s'apprête à officialiser une sorte le battle entre les deux gigolos, on va dire, les vaudevillains les interrompt en poussant la chansonnette.
Ah ouais, c'est leur truc
C'est
maintenant.
leur truc. Donc c'est Eden English, c'est ça, oui, je crois, qui est
Ouais, tout à fait.
le chanteur, la Castafiore de cette équipe de gentlemen, hein, qui sont clairement là pour montrer que voilà, tout ça, ça ne fait pas honneur. Hein.
Oui,
Eux,
exact.
ce sont de vrais gentlemen. Ils n'ont même pas le temps d'atteindre le ring que débarquent les quatrièmes participants à ce futur Fatal Four Way. Évidemment, sont donc les membres de The Club, Anderson et Gallows. Ils sont la fun police, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment alors là pour la peine, eux, ils sont vraiment pas venus pour rigoler. Et donc, les quatre équipes se toisent et tout ça va se régler dans un match, un eight-man tag team match,
Voilà, tout à fait.
si on peut dire. Alors là, du coup, j'avais dit à Giscard que j'avais pas pris de notes forcément pour tous les matchs. En fait, j'en ai pris pour tous les matchs, sauf celui-ci.
Ah, sauf celui-ci.
Ouais. Donc ce 8-man tag team match, si je me souviens bien, on va essayer de faire marcher ma mémoire. Opposé Kofi, Biggie,
Gentil.
Enzo et Cass. Voilà, donc on peut
Sur les mecs.
résumer les gentils contre les méchants. C'est aussi simple que ça.
Et le club.
Giscal, est-ce que tu pourrais nous parler vite fait de ce match ou pas?
Bah écoute, oui, c'était un match tag team étendu, on va dire relativement classique, avec des assez longues phases de face en péril, comme souvent dans ces matchs-là. On a eu une première phase assez longue où Enzo donc a subi les différentes attaques des vaudevillains. De Gallows également, tandis que bah voilà, tout le monde du côté des gentils essayait désespérément de tendre la main pour essayer d'avoir le hot tag qui a fini par arriver pour Big Cass, fort logiquement, donc qui est venu aider son petit ami. Et puis bon bah gros bordel, il nettoie tout le ring, coupure pub, on repart dans une phase assez longue où cette fois c'est Biggie qui finalement puis Enzo encore, puis un peu Kofi Kingston qui prennent la foudre, et puis bah re-hot tag, enchaînement de finishers, et puis un finish relativement cool, avec finalement le club qui sort son Magic Killer sur Kofi Kingston pour la victoire. Donc il n'y avait pas, c'est vrai que d'habitude on vous fait un résumé un peu play by play comme disent les Américains, avec quelques mots. Il n'y avait pas énormément de spots en particulier. C'était un tag team match relativement classique avec des phases de domination, un finish bordélique avec tous les gentils, tous les méchants qui enchaînent leurs moves, et une victoire au final relativement logique, je trouve, avec la bonne équipe qui gagne, enfin la bonne sous-équipe qui gagne, parce que c'est vraiment le club qui prend la victoire avec le Magic Killer sur Kofi, et qui lance bien les hostilités pour le Fatal Four Way. Donc moi c'est plutôt un match que j'ai bien aimé, un match qui a duré d'ailleurs relativement longtemps, qui était plutôt un bon opener dans la continuité de l'ouverture. Je pense qu'on a dû avoir un bon quart d'heure de match. Et puis bah, un match qui donne un peu envie de voir le Fatal Four Way, ce qui n'était pas forcément, bah, tu me diras ce que tu en penses après, mais ce qui n'était peut-être pas forcément mon avis en début d'émission, parce que j'ai trouvé ce booking un peu feignant. La solution du Fatal Four Way pour le titre par équipe, c'est quelque chose qui est quand même vu et revu, qui peut par moments être très fun, hein. Il y a des moments où il y a tellement de bonnes équipes que bah, on a bien envie de voir un pay-per-view, une grande joute entre tout le monde. Là, j'ai trouvé que ça arrivait un petit peu comme pas comme un cheveu sur la soupe, mais un peu de façon facile, parce que on sentait plutôt le club monter en puissance avec leur irruption dans la scène par équipe de manière assez violente, avec les beatdowns sur le New Day. Et puis du coup, on sentait peut-être une feu de partir. Et puis bah, là, d'un seul coup, les vaudevillains reviennent dans la danse, Enzo et Cass reviennent dans la danse, et puis on a un Fatal Four Way finalement booké un peu rapidos. ce qui m'a un petit peu déçu. Après, voilà, ce Euro donne quand même envie, je trouve, parce que toutes les équipes ont été bien mises en valeur. Le club apparaît comme une force quand même très très dominante et je trouve, à mon sens, favorite pour le match après ce segment. Donc, écoute, à voir.
Oui, c'est ça. Oui, comme tu dis, clairement, c'est les favoris. Tu parles du booking, effectivement, d'autant plus que ce Fatal 4-Way a été annoncé, officialisé une semaine avant, quoi, au
Ouais,
Grand
voilà.
Show. Donc un peu tardif. Ceci étant, tu as raison, il y a quand même beaucoup. Enfin, souvent, les Fatal 4-Way, Tag Team Match, stipulation un peu bancale pour mettre un peu tout le monde, parce qu'on n'a pas réussi
C'est ça.
forcément à booker un prétendant. Là, j'aurais tendance à dire que. Ça se justifie un petit peu plus dans le sens où effectivement The Club ont marqué les esprits, mais aucun prétendant n'ayant jamais été officialisé
C'est vrai, c'est vrai.
via une victoire pour un match en particulier, ou toi, certains faits d'armes. The Club, ils sont invités à la fête sans y être vraiment invités, on peut dire, mais ils ont marqué quand même les esprits. Ils se sont clairement positionnés, en plus ils ont annoncé hein, qu'ils étaient
Ouais,
intéressés
tout
par
à fait.
le titre, ce qui n'est pas tombé dans l'oreille.
Manifestement, non.
D'un sourd. Et après, voilà, effectivement, Enzo, Cass et les vaudevillains étaient en finale
Ouais,
du championnat.
c'est vrai.
Bon, après, les vaudevillains ont perdu clean, donc.
C'est ça aussi, c'est que on pouvait se dire aussi que cette affaire était plus ou moins soldée, entre guillemets, puisque les Vaudevillains avaient perdu leur title shot. Ils n'ont pas forcément fait grand-chose pour en regagner un.
Non, ou alors dans Main Event ou Superstars, mais.
Oui, éventuellement, ça, les auditeurs nous corrigeront peut-être. Moi, voilà, ce que je regrette peut-être un tout petit peu, c'est finalement, et là, sauf erreur de ma part, je n'ai pas souvenir d'avoir eu un segment qui vraiment justifiait ce Fatal 4-Way, hormis le fait, bah voilà, écoutez les gars, Fatal 4-Way, Money in the Bank. Mais on aurait peut-être pu en effet expliquer bah, pourquoi est-ce que les Vaudevillains étaient inclus, pourquoi est-ce que le club était inclus, parce qu'en soi, ils ont, pareil, eux non plus, ils n'ont pas spécialement gagné leur place, hormis le fait d'arriver, de dire on casse tout. Donc voilà, c'est juste peut-être un petit manque de justification et une petite facilité qui me chagrine. Après, je pense on va quand même bien se marrer parce que c'est quatre bonnes équipes, hein.
Oui, c'est l'alchimie. Là, on parle vraiment d'alchimie, je pense. Ce Fatal 4-Way, il fonctionne parce que bah, c'est quatre équipes qui fonctionnent bien ensemble dans les segments
Ouais, voilà, tout à fait.
hors combat. Et même pendant les combats, ça fonctionne très bien. Et je soupçonne également ce petit Fatal 4-Way d'être une petite astuce pour prolonger encore un peu plus le règne des New Day afin
Pourquoi pas, c'est vrai.
de battre ce fameux record. Record qu'ils ont battu en termes de durée cumulée. De
Ah ouais?
règne. Oui, ils sont les champions tag team au règne cumulé, hein, j'entends bien, donc, vu qu'ils ont eu deux règnes, le plus long.
Ah ouais, d'accord.
Mais ils n'ont toujours pas battu, à ma
Passionnant.
connaissance, la durée de règne
Sur un seul
sur
règne.
un seul règne, voilà,
D'accord.
et ce qui
Qui est
devrait
détenu
arriver.
par, je sais pas.
On en avait déjà parlé un
Je sais
précédent, mais
plus.
peu importe. Brian Kendrick, peut-être, je crois. Non, enfin, on s'en fout. Toujours est-il que ce Fatal 4-Way a été booké et que on le verra plus tard, d'autres matchs ont été bookés un peu comme ça à la dernière minute. En parlant de booker, en tout cas de personnalité représentante de l'autorité, un des fils rouges de ces dernières semaines, de ces derniers temps, et en tout cas du fil rouge pardon, de cet épisode, c'est évidemment. La brand split, si on peut dire, en tout cas, la feud entre la rivalité entre Shane et Stéphanie
Oui.
concernant la prise de commande des différents shows de la WWE. Donc Shane est de retour de vacances. Donc ça, c'est déjà la première bonne nouvelle pour les fans de Shane et mauvaise nouvelle pour les autres. Donc il s'engueule clairement avec sa frangine sur qui va gérer les shows. Il propose à Stéphanie, bah toi tu vas gérer Raw, moi je vais gérer SmackDown, ça ne convient pas à Stéphanie. Il lui propose l'inverse, ça ne lui convient pas du tout. Et là on a, tout comme on a eu Teddy Long qui s'est positionné, qui a déposé son CV, si on peut dire, la semaine dernière, c'est au tour de Corporate Kane de refaire son apparition. Kane qu'on n'avait pas vu depuis un bon bout de temps.
Exactement, ouais, c'était un peu la
Et encore
surprise.
moins sous cette forme, parce qu'il me semble bien que la dernière fois qu'on l'avait vu, il était plus sous sa forme démoniaque. que sa forme costard cravate. Hein.
Ouais, il y a plus,
Donc,
il y a ce qu'il veut.
mais ouais, il fait ce qu'il veut. Et voilà, il vient déposer son CV, hein, il candidate, hein, tout le monde a droit à sa chance.
Pourquoi pas?
Donc il a, en plus, il vient avec un CV et une lettre de motivation, de recommandation, pardon, de son frère, ni plus ni moins, The Undertaker. Bon, visiblement, a le temps d'écrire des lettres de recommandation pour son frangin, hein, ça on ne demande pas.
Il a 1 an à chaque fois.
Il a 1 an. Faut bien s'occuper, voilà, entre deux gros pay-per-view, entre deux WrestleMania. Mais malheureusement pour Ken, sa candidature ne sera pas reçue malgré les bonnes idées que ce dernier a apportées pour faire valoir sa candidature. Donc ça, c'est vraiment donc la storyline un petit peu qui on va dire backstage de cet épisode.
Oui, clairement.
Donc là, on va passer à quelque chose d'un peu plus solide, non, mais voilà, qui concerne déjà le titre US. Alors, Titus O'Neil avait visiblement un match ce soir. Mais il a à peine le temps de descendre la rampe que bah, il se fait attaquer par Rousseff, qui lui porte à plusieurs reprises son accolade. Seuls les arbitres arriveront à peu près, j'y mets à peu près.
Ouais, ils ont eu du mal à
Ils ont
laisser
eu du
parler.
mal. Après, il y a Lana qui est apparue et Rousseff a porté une deuxième fois son accolade sur Titus O'Neil pour clairement porter un message avant leur match pour le titre US qui était, je crois, bah, du coup, vraiment véritablement officialisé seulement à ce rôle-là, même si on s'en doutait bien depuis quelques semaines. Donc, bah, y a eu pas de match hein, impliquant l'un ou l'autre ce soir. Bon, voilà. Quoi en penser? Pas grand-chose, hein, j'imagine, parce que on
Ouais.
imagine vraiment Titus aller se faire bouffer tout cru
Oh
par
bah il va se
Rousseff,
faire
quoi.
défoncer, je pense. Ouais, je suis assez d'accord. Bon, écoute, ouais, c'est dans la lignée de la feud. C'est mieux que les échanges qu'ils ont eus les semaines précédentes. Parce que oui, en effet, bah là, on voit de. Enfin, ça donne de la matière, ça donne de la consistance un peu à la rivalité.
On
Voilà.
était plus sur une démonstration physique alors que le précédent c'était sur le
Ouais.
côté patriotique.
Exactement. Bon après, ça arrive peut-être un peu tard. Et moi, ça va pas bouleverser en tout cas ma vision que j'ai de ce match qui reste, je pense une, enfin qui restera pas dans les mémoires ou sur le palmarès de Rousseff comme une défense de titre mémorable. À mon avis, on se dirige en effet vers un match très quelconque, sans histoire vraiment accrocheuse. Donc ouais, bon, pas grand chose à penser de ça. Ça va être une pause entre deux affiches, je pense, dimanche.
Mais heureusement, je crois que ce match ne sera pas en pré-show. Et du coup, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas
Oui,
vu un match US
c'est bien
pour le
vu.
titre US en dehors du pré-show ou du kick-off.
Kalisto a pendant longtemps été le champion du pré-show. Il était temps quand même de remettre ce titre sur la carte principale. Parce que, après le travail de démolition qu'ils ont entrepris post-blessure de John Cena, il faut quand même remettre les choses correctement.
On va passer à la séquence, la fameuse séquence très rapide que vous attendez tous, qui est la séquence du Jobber World. Alors, pas grand-chose à se mettre sous la dent, mais tant mieux. On va y aller rapidement. Backstage, Zack Ryder, qui se fait prendre à partie par Sheamus, qui au passage annonce qu'il a un match avec Apollo Crews à Money in the Bank. Donc on officialise un match.
Heureusement que les caméras se baladaient par là, comme ça on a su qu'il y avait un match.
Oui, nos caméramans ont le flair et le nez creux pour ce genre de séquence backstage. Donc il y a évidemment un petit match entre Zack Ryder et Sheamus, victoire expéditive du rouquin, qui en profite pour passer à tabac, le traditionnel passage à tabac hein, du bully sur le bolos, on peut dire
Oui,
ça.
faut dire ça comme ça.
Et Apollo Crews qui vient évidemment sauver à la qui vient à la rescousse pardon de Zack Ryder à la fin du match, enfin, après le match. On apprend également que Dolph Ziggler aura un alors j'ai mis un rien à foutre huitième match contre Baron Corbin. Alors, beaucoup de gens pensent que c'est le troisième match, mais il me semble qu'en fait, c'est le quatrième match qui
est perdu.
Non, bah voilà, c'est ça. C'est le troisième match en pay-per-view, mais il me semble que c'est au moins le quatrième.
Non, ah oui, ça c'est très possible. Ça. Oui, donc, il y a fort à parier que la feud avait commencé en weekly, donc oui, c'est peut-être leur quatrième.
Ouais, donc voilà, et ça pour la peine, ce sera direct au kick-off.
Oui, ça me semble normal ça.
Et enfin, les Shining Stars et Darren Young qui nous gratifient de leur traditionnelle vignette ridicule.
C'est ça, je pense que c'est pas la peine d'en dire plus.
Retournons à des choses un peu plus sérieuses, si tu veux bien, avec le titre féminin.
Ouais.
Même si bon. On aimerait que ça soit un peu plus géré sérieusement que ça. Donc, ce soir, on a un match qui oppose la championne Charlotte à Paige. Donc Paige, qui avait déjà battu Charlotte dans un weekly précédent.
Ouais, tout à fait.
Donc un match très court, il me semble. Hein. Je sais même pas si on a atteint les 5 minutes pour ce match-là.
Oui, je pense que ça devait être de cet ordre-là à peu près, ouais.
Alors, qui se termine sur une victoire de Paige, alors que Dana Brooke, qui accompagne évidemment Charlotte aux abords du ring, venait en fait justement d'aider Charlotte à revenir sur le ring suite au. Enfin, Charlotte avait été sortie du ring. Du coup, bah, Dana Brooke a voulu bien faire et a voulu donc aider Charlotte à revenir sur le ring. Sauf que Paige en a profité pour porter son finisher et ainsi, il me semble, oui, c'était son finisher, et ainsi remporter la victoire. Natalia et Becky étaient aux commentaires ce soir.
Oui.
Donc,
les futurs adversaires.
Voilà, on apprend du coup, autre match officialisé ce soir. Alors on apprend que Natalia et Becky affronteront donc Charlotte et Dana Brooke dans un tag team match. Donc le titre ne sera juste non, pas du tout en jeu.
On ne sait pas pourquoi.
On ne sait pas pourquoi.
Natalia, ça ne l'intéresse plus, je ne sais pas.
D'autant plus. Ouais. Après, c'est vrai que le titre n'est même pas au cœur de la rivalité. Là, on est vraiment bêtement sur une rivalité opposant. Deux groupes de filles qui s'engueulent à dire c'est vous les plus méchantes et c'est nous les plus gentilles quoi. Voilà, on se retrouve avec ce tag team match qui va probablement aider Charlotte à prolonger un peu plus
ah bah oui, ça c'est sûr, oui. C'est une ficelle un peu grosse là, oui.
Son règne pour direction SummerSlam et en espérant
on espère
qu'on
toujours
voilà un autre bah voilà, une rivalité autour du titre un peu plus solide, parce qu'effectivement, c'est chiant à chaque fois de revenir à ça, mais la fameuse révolution féminine, on est obligé d'y revenir à chaque fois, c'est-à-dire qu'on aimerait ne pas en parler, c'est toujours pareil.
Bah oui, mais on est obligé, puisqu'ils l'ont tellement annoncé, et puis on y a tellement cru, parce que c'est vrai qu'il y a eu des mois super. Hein,
il y avait de quoi y croire.
Que ce coup de mou est vraiment désespérant. Et moi, c'est vraiment, c'est le seul truc que j'avais. C'est mon seul grief sur le show, mais c'est mon seul grief de manière générale. Je trouve en ce moment vraiment fort hein, sur la WWE. C'est, je comprends pas le traitement de Charlotte, parce que du coup, on a pas parlé du match vraiment, mais il y a pas grand chose à dire. Mais enfin, ce qu'il faut dire quand même, c'est que Paige gagne clean.
Paige Galkin, alors effectivement, je décris pas trop les matchs parce que comme tu le dis tout à l'heure, notre commentateur play by play, c'est Hank.
Non, mais bon, somme toute, ce qu'il faut retenir sur le finish, c'est que en effet, comme tu as dit, Charlotte était hors du ring, Dana pensant bien faire la remet dans le ring, sauf que au final, elle lui fait bouffer. Enfin, Paige l'accueille avec un rampage et gagne, ce qui s'apparente quand même, mine de rien, à une victoire très clean, qui malheureusement n'aura pas probablement aucune conséquence, alors que ça fait quand même deux fois que Paige gagne gratos, enfin clean sur Charlotte et ne parle absolument pas de la ceinture. Ouais, pourquoi pas. Natalia, elle, vient de se faire enfumer au pay-per-view pour le titre, mais la ceinture ne l'intéresse plus. Becky Lynch, elle revient pour aider Natalia, mais en fait, au final, la championne passe, enfin vraiment, est je trouve de moins en moins impressionnante, de moins en moins bien bookée. Le titre passe complètement au second plan. Les filles, enfin, la division féminine de manière générale n'a pas du tout l'air de s'intéresser au titre de manière générale. Donc pourquoi est-ce que nous on s'y intéresserait en fait? Donc je suis complètement perplexe sur la gestion du cas de Charlotte. Et puis bon, vous en aviez parlé la semaine dernière, on en a parlé les semaines d'avant. Le fait que sa rupture avec Ric Flair et son amitié naissante avec Dana n'a absolument aucun sens. Et on envoie plein de signaux contraires dans les promos, dans les segments backstage et tout. Donc, bref, c'est vraiment un bordel, je ne comprends pas. Je pense que vraiment là, ils ont mis tout en stand-by en attendant. Enfin, je sais pas, on en avait déjà parlé la dernière fois.
Ouais,
Est-ce
c'est ce
que.
qui se dit, c'est que enfin, visiblement, ce qui revient, c'est qu'effectivement, ils mettent tout un stand-by, comme tu dis, parce que pour le
Ouais, mais c'est pas
retour
faux, quand même.
de
Il est
du Messie,
capable.
Sacha Banks. Mais attendez, les gars, là, il n'y a pas que Sacha Banks.
Et
Là, on
puis.
a quand même Paige et Becky Lynch, qui sont des prétendantes légitimes, potentielles, pour affronter Charlotte, et qui, en plus, Paige et Becky Lynch, justement, permettraient à Charlotte
Ah oui.
De jouer, de rejouer, de
Sur
reprendre
leur histoire.
pleinement ce rôle de championne forte avec des rivalités fortes.
Et puis c'est surtout qu'au final, à force de faire ça, le jour où Sasha Banks va revenir, si c'est pour faire un retour et battre une championne qui n'a pas défendu son titre depuis 2 mois ou qui a été traînée dans la boue depuis 2 mois dans des histoires un peu bizarres, bah ok, Sasha Banks, elle aura peut-être gagné le titre à SummerSlam, mais ça va pas être extraordinaire comme moment.
Un peu moins prestigieux que cet affrontement, ce triple threat qu'il y avait à WrestleMania,
Ah
où
bah ça c'est sûr.
effectivement.
Ouais. Là on en est loin. Hein. Ouais.
Pourtant, voilà, SummerSlam, c'est dans un mois. C'est bientôt et il est temps. Bon, espérons qu'après Money in the Bank, tout se remette en place et que.
Bon, ça, du coup, je dois l'admettre, je ne suis pas content pour ça. C'est rare, mais je ne suis pas content.
Bon, alors ça, je ne sais pas si ça t'a rendu content ou pas content, mais le Miz nous envoie de ses nouvelles.
Ah oui, ça, je suis content, ça. Oui,
Des nouvelles du Miz, bah, ça fait plaisir.
j'aimerais bien savoir ce qu'il fait, quand même. Oui,
Eh ben, il tourne, tiens-toi
on est
bien.
en droit de savoir ce qu'il fait.
Ce n'est pas qu'un catcheur, ce n'est pas qu'un acteur, c'est une star à 360 degrés. Et bah, il tourne actuellement, évidemment, sur son film le Marine 5, qui
Oui,
est
Battleground.
promis au record du box-office,
Qui sera
évidemment.
probablement le sponsor du prochain pay-per-view, parce que le prochain pay-per-view, c'est Battleground, donc du coup, ce sera.
Ah oui, il y a Battleground avant SummerSlam, tu avais bien foutu. Ah, d'accord. Bon, un peu plus de temps pour booker alors cette histoire de division féminine. Toujours est-il que le Miz, ça a l'air de bien se passer pour lui hein, sur le tournage. Il nous dit de pas trop nous en faire. Il est toujours champion intercontinental et on le reverra bientôt. Bon, cette séquence est très courte, mais du coup, moi, je vais te poser une petite question, mon petit Giscard, si tu veux bien.
Oui.
Le Miz,
Oui.
il termine son film,
Oui.
il revient.
Oui.
Qui pour l'accueillir?
Ben
Qui
c'est une
pour
bonne
aller se
question.
frotter au Miz?
C'est un petit peu. C'est quelque chose qu'on pourrait d'ailleurs reprocher aussi, je trouve, à l'écriture actuelle. C'est de pas planter de petites graines comme ça pour le retour. Enfin, à long terme, parce que bon. Il va pas revenir tout de suite, mais mine de rien, c'est le champion intercontinental. Bon, on sait bien que cette règle obscure des 30 jours de défense de règne, machin, bon, ça n'existe pas vraiment, vraiment, on s'en fout un peu, c'est quand ça nous arrange et tout. Mais bon, mine de rien, il est champion, il défend pas son titre, les pay-per-view vont passer, et personne monte au créneau pour dénoncer ça. Je trouve que c'est un peu dommage, on pourrait avoir justement. Des faces, bon, là ils sont très. C'est vrai que les faces récents avec qui il était en rivalité sont très occupés avec le Money in the Bank, donc ils ont d'autres préoccupations. Mais c'est bizarre que c'est dommage qu'on n'en parle pas. Il pourrait y avoir justement le prochain challenger ou un des potentiels futurs challengers qui disent ouais, au fait, fichier le Miz, machin, moi je l'attends quand il revient, ou même c'est une flipette, il vient pas défendre son titre. Donc bref, c'est un peu dommage. Après, sur ta question, qui est-ce que je le vois affronter quand il va revenir? À mon avis, il va y avoir Cesaro dans la discussion. Moi, je pense que c'est pas fini entre deux.
Bah, c'est vrai que leur match au dernier pay-per-view montrait clairement un Cesaro proche de la victoire, qui s'était voilà, qui méritant et qui n'a perdu que parce qu'il a tellement tout donné que bah, c'est quelqu'un d'autre en a profité,
C'est
voilà,
ça,
et lui a
exactement.
volé la victoire qui lui était
Qui
tendue.
sera plutôt légitime. Donc, c'est pour ça que je me dis, bon, à la limite, peut-être qu'on en entendra parler après Money in the Bank, parce que bon, moi, personnellement, je ne le vois pas gagner. On aura l'occasion d'en reparler plus tard, je pense, pour parler de pay-per-view. Mais bon, voilà. Donc, à mon avis, peut-être qu'il se réveillera et qu'il parlera du Miz post-pay-per-view. Sinon, quoi d'autre? Il peut y avoir, avant de revenir vers Cesaro, qui est-ce qu'il pourrait y avoir? Il pourrait, pourquoi pas, y avoir Darren Young. On ne sait pas. Est-ce qu'il.
Ah, Titus O'Neil dans la US title et tu nous mets Darren Young
Non, mais
à
je me dis
l'interprète.
pourquoi? Parce
Ah
qu'il va bien, il va bien finir par arriver. On lui donne des vignettes, donc a priori c'est pour faire, il va revenir pour faire quelque chose. Donc du coup, pourquoi pas la feud intercontinentale? Il va manifestement revenir face en mode un peu ridicule. Le Miz et Heel, ça pourrait coller. En attendant Cesaro, peut-être, je sais pas,
une
pourquoi
guerre des managers entre Bob
pas.
Backlund et Maryse.
Et ça peut donner des matchs très amusants. Enfin, en tout cas, moi, je sais que ça me fera marrer. Donc, pourquoi pas?
Alors, une autre séquence qui était, je ne sais pas si tu as fait marrer ou pas, mais en tout cas, c'était une séquence très 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 attendue, puisque ce soir, c'est le retour du show de Dean Ambrose,
Ah.
The Ambrose Asylum. Une émission qui avait été normalement annulée par
Oui.
Stéphanie McMahon, mais qui est de retour parce que les gens l'ont réclamé.
Voilà, c'est ça. De toute façon, maintenant, c'est leur truc, ça, maintenant.
Comme Shane McMahon n'était pas censé diriger Raw, mais
Quand
il est
il faut
revenu.
expliquer un truc, il faut aller voir du côté de Twitter.
C'est ça. Donc, bah mine de rien, c'est un moment important,
Oui.
puisque Dean Ambrose, les invités de Dean Ambrose
Importance.
ce soir ne sont ni plus ni moins que ses deux anciens partenaires de crime, Seth Rollins et le champion Roman Reigns. Donc, une réunion du Shield, hein, là, clairement, on nous l'a bien, bien, bien teasé, hein,
Ah
cette
oui,
réunion du Shield.
on l'a bien teasé en effet.
Donc, Dean Ambrose est rejoint par évidemment ses deux invités. Donc, Dean Ambrose demande un peu des nouvelles des uns et des autres, notamment comment va Seth Rollins, son genou, tout ça. Seth n'est pas trop trop d'humeur, parce que Dean Ambrose est plutôt taquin, on va dire, ce soir. Et donc, Dean Ambrose, forcément, il dit que c'est un party pooper, donc un mec qui est là pour gâcher la fête, quoi.
C'est ça exactement.
Seth Rollins dit que effectivement, il se rappelle des bons moments hein, qu'ils ont passés tous ensemble à l'époque du Shield, qu'ils ont leur première victoire, hein, tout leur fait d'armes, hein, leur titre, etc. Évidemment, son moment préféré, c'est quand il les a frappés violemment d'un coup de chaise et donc s'est retourné contre eux et ainsi pu connaître le destin qu'on lui connaît. Son autre moment préféré, qui n'incluait pas Dean Ambrose, comme il l'a bien précisé
Oui,
lui-même.
il l'a bien bien précisé. Non, on en reparlera, mais sa promo était vraiment excellente.
Ouais, bah évidemment, c'est quand il a volé le moment qui était promis à Roman
À
Reigns, en s'invitant. Lui, le party pooper, justement, en s'invitant à la fête lors du main event
WrestleMania 31.
voilà, en cachant sa mallette et on connaît la suite. Donc les deux se toisent, hein, évidemment, Seth Rollins et Roman Reigns.
Oui.
Le premier rappelant à l'autre qu'il n'a jamais perdu le titre, qu'il n'a jamais vraiment perdu le titre, tout simplement,
Oui, tout simplement.
et encore moins face à Roman Reigns. Mais il accorde hein, à Roman Reigns qu'il a battu Triple H, etc. Mais lui, non. Roman Reigns lui rétorque que si tu étais vraiment le champion,
Ouais, t'aurais la
pourquoi tu as pas le titre D'ailleurs,
t'aurais
Dean
la
Ambrose
grosse
lui fait,
ceinture
attends,
sur
c'est
toi.
moi qui pose les questions. Et il lui fait, bah ah oui, tiens alors,
Pourquoi t'as pas le
pourquoi tu n'as pas le
titre?
titre? Donc voilà, il y avait une bonne ambiance il y avait à la fois de la tension et du plaisir, de l'humour entre tous ces trois anciens frères d'armes. Et là, la séquence se termine par Dean Ambrose qui conclut, pour teaser évidemment l'affrontement qui aura lieu à Money in the Bank, le probable main event, en tout cas on l'espère. qui repartira champion de Money in the Bank, du pay-per-view? Seth Rollins, le champion déchu, ou Roman Reigns, le champion en titre? Ou pourquoi pas ni l'un ni l'autre?
Eh oui.
Car Dean Ambrose alors fait apparaître la possibilité de cacher la mallette qu'il aura décrochée le soir même. Donc là, ovation, grosse pop hein, dans le public, comme certains, dont toi, Giscard, l'ont dit sur le forum,
Ah oui.
qui a du catch, à Dean Ambrose, peut-être est celui qui a le plus gagné lors de cette séquence, outre le fait que voilà, on a validé définitivement l'affrontement entre l'architraître et Roman Reigns. On en a aussi profité pour rebooster la pop de Dean Ambrose, en laissant planer cette épée de Damoclès, hein, qui est effectivement, et pourquoi pas un Dean Ambrose
Pourquoi
qui
pas?
vient
Ouais.
cacher.
C'est clairement lui qui a le plus à gagner dans cette histoire. Ouais.
Et oui, peu importe le gagnant entre Seth Rollins et Roman Reigns, on n'est pas à l'abri d'un cash-in de Dean Ambrose. Donc, bah, qu'est-ce que t'en as pensé de cette séquence?
Bah écoute, moi j'en ai pensé que du bien. J'ai trouvé cette séquence absolument géniale. J'ai pris beaucoup de plaisir devant cette promo que j'ai trouvée extrêmement bien ficelée de la part de Seth Rollins surtout. Puisque comme ça, je vais pouvoir en profiter pour dire tout le bien que j'ai pensé de cette promo de Seth Rollins, puisque la semaine dernière, c'était Ringside qui disait qu'il n'aimait pas Seth Rollins. Je comprends pas.
Ouais, bon,
Il me...
après Seth Rollins, c'est vrai que voilà, il nous a fait des séquences un peu étranges. Il y a eu cette
Non,
séquence
non,
étrange
évidemment.
qui n'a pas fait l'unanimité, où ils se sont regardés en chien de
Non,
faïence. Donc là, c'est
mais...
sûr que quand Seth Rollins prend le micro.
Non, non, mais là, c'était vraiment extra. J'ai beaucoup, beaucoup aimé, encore une fois. Bon, évidemment, il y avait, au-delà de ce qui se sont dit, il y avait déjà le contexte, il y avait le décorum, qui était absolument épique et spécial, parce que c'était la réunion des trois membres du Shield. Pas exactement pour la première fois depuis qu'ils ont cassé, mais d'une certaine façon, quand même, un petit peu, si, un petit peu la première fois vraiment qu'ils se posaient tous les trois, qu'ils discutaient dans un ring, seuls, sans bordel autour. Donc c'était quand même un moment très spécial et je trouve que le public a été au rendez-vous d'ailleurs à ce niveau-là. Il y avait une grosse ambiance, une grosse électricité. Donc ça, c'était déjà rien que ça, c'était génial. Après, à côté de ça, bon, Seth Rollins a été absolument extra, comme sa promo de retour. Justement, il a très très bien joué avec. Il est vraiment excellent, je trouve, depuis son retour pour savoir jouer avec la pop dont il continue à jouir, mine de rien, parce que le public smart l'aime et on attendait tous avec impatience son retour, donc on est toujours à chaque fois content de le voir. Et lui, il arrive à jouer avec ça pour retourner toujours les vivats en sifflet. Donc là, c'était très malin. Les deux le taquinent au début en disant ah, bah alors, comment ça va, Seth? Comment ça va? Bah, pourquoi tu fais la gueule? Et en plus Dean Ambrose l'avait, parce qu'au début, il était arrivé, il avait annoncé les deux participants à son talk show. Donc il avait présenté Roman Reigns, il avait présenté Seth Rollins en disant The scum of the earth, genre la raclure la raclure du monde. Genre, donc voilà, ils n'ont pas arrêté de le tchatcher un peu. Puis au bout d'un moment, ils lui ont dit, bah ouais, pourquoi tu fais la gueule? On a eu des bons moments entre nous. Et puis donc ils ont laissé à Seth Rollins le rôle d'énumérer tous les bons moments qu'ils avaient eu ensemble. Ils ont parlé, donc comme tu dis, hein, de tous les super matchs qu'ils ont eu. Seth Rollins a parlé de tous les moments qu'ils avaient passé en tournée ensemble quand ils voyageaient aux quatre coins du monde, tous les trois, au Japon, aux États-Unis, en Europe, leur soirée arrosée, tous les trois. Donc du coup, on est là, on se dit, ah tiens, ah bah finalement, il est cool, Seth Rollins. Ouais, on enfin, donc le public était plutôt rentré dans le jeu, l'encourageait. Et puis arrive le moment, on disait, mais mon moment préféré, comme tu l'as dit, bah
C'est la trahison, quoi.
c'est la trahison. Et là, ouh, les
Ouais.
sifflets, machin, ouais, enfoiré. Donc j'ai trouvé ça très bien. Certains diront que c'était téléphoné et facile, mais
Il fallait le faire et l'exécution était
voilà,
bonne, quoi.
ça n'en reste pas moins très efficace et finalement très très bien pour bien planter le décor pour dimanche. Donc bah, voilà, la trahison, le cash-in, où en effet, comme tu dis, il précise bien à Dean Ambrose que lui n'était plus là. Il aurait même pu rappeler, je trouve, que l'année dernière, que l'année dernière à Money in the Bank, qui est-ce qui bat Dean Ambrose pour le titre mondial, c'est Seth Rollins en main event. On aurait pu faire ce petit rappel-là, mais bon, à la limite, c'est pas trop grave. Et puis bah après, voilà, s'en vient la montée en température, le bordel, ils se foutent sur la gueule. Dean Ambrose, comme tu dis, annonce ce que tout le monde attend finalement, qu'il peut gagner. Et qui dit gagner le Money in the Bank dit bah, rencontrer finalement, croiser le chemin enfin de ces deux compères et nous offrir le match que tout le monde attend. Parce que je pense que ce triple threat, ça fait plus de 2 ans et demi que tout le monde le veut le voir. Donc, du coup, c'est évidemment le grand teasing de ce segment, c'est ça. C'est au-delà du fait qu'il va y avoir un match pour le titre entre Seth Rollins et Roman Reigns, c'est surtout que Dean Ambrose a la possibilité de les rejoindre en haut de l'affiche et de nous offrir le dream match que tout le monde attend. Donc voilà, j'ai trouvé que tout ça c'était très bien exécuté. Tout le monde avait le bon rôle, les bonnes répliques. Et au final, le message qui passe, c'est que bah, à Money in the Bank, il va se passer des choses très très importantes, pas que pour le pay-per-view, mais pour après. Donc je pense que la Dreamfeud, entre guillemets, la feud pour le Triple Threat qui arrivera quand il arrivera, est lancée officiellement. Et avec ce segment, je ne vois pas personnellement comment Dean Ambrose ne peut pas gagner la mallette.
C'est limite le reproche qu'on pourrait faire à ce booking, c'est que
Ouais, je sais pas.
on a du mal à imaginer du coup Dean Ambrose ne pas remporter la mallette.
Écoute,
Parce qu'en plantant comme tu dis, là, on vient de lancer cette fameuse rivalité, cette storyline du triple threat. En tout cas, c'est l'impression que ça donne. Et en tout cas, s'il fallait le faire, c'est maintenant, parce qu'ils l'ont bien fait. Là, vraiment, la réalisation était, l'exécution était parfaite. Et du coup, ça rend tout ça un peu peut-être trop évident, non?
Ouais, mais je sais pas si. Enfin, il y a des moments où le prévisible, c'est pas forcément mauvais. Et je pense que. Enfin, voilà, on l'avait dit par le passé, quand le public a. On reproche trop souvent à la WWE de pas forcément donner tout le temps au public ce qu'il a envie de voir. Le public a envie de voir ce triple threat. Je pense que là, toute frange de fans confondue, je pense que l'unanimité est à peu près réunie pour dire qu'on a envie de voir un de ces quatre pour le titre ou pas pour le titre, mais. Ça pourra être pour le titre, Dean Ambrose, Seth Rollins et Roman Reigns dans un match de haut calibre. Bon, bah écoute, voilà, là, ils ont une occasion parfaite de le faire. Et moi, je me dis que c'est plutôt bien, justement, d'avoir fait de Dean Ambrose le favori. Parce que, justement, ce statut de favori ne peut amener que du positif, à mon avis, pour Dean Ambrose, dans un premier temps. Parce que Dean Ambrose, il avait un problème de popularité, moi je trouve, depuis un petit moment.
Oui, c'est effectivement. Le lui redonner la mallette, c'est lui le remettre au même niveau que
Ouais,
Seth
alors
Rollins et Roman Reigns.
là, ouais, en tout cas, soit lui donner la mallette, soit ne pas la lui donner, ça donne en tout cas une raison au public de vraiment être à fond derrière Dean Ambrose. Ce statut de favori, je pense, lui redonne une partie de l'aura qu'il avait perdue, à savoir que quoi qu'il arrive, le public. Enfin, ça va être un des grands, grands favoris du public parce que le public va vouloir le voir gagner pour voir le match derrière. Donc, du coup, soit il va gagner et ce sera une super explosion de joie et on aura un bête de match, soit il va perdre et ça peut redévelopper ce sentiment de frustration vis-à-vis de Dean Ambrose, de le voir triompher, de le voir remonter la pente et de le voir gagner en bout de course comme ça avait pu être le cas pour Daniel Bryan. Et ce qu'il avait un petit peu perdu, moi je trouve, avec le temps, c'est qu'au final, à force de loser, le public avait un petit peu perdu l'intérêt dans son personnage. Je me suis dit, bon, bah, écoute, tant pis pour lui, il y a d'autres mecs qui montent, on va aller supporter quelqu'un d'autre. Là, le fait de l'avoir réinstauré comme gros favori et dans cette storyline ultra importante va faire que, quel que soit le résultat, le public, je pense, va être beaucoup plus impliqué dans le personnage de Dean Ambrose déjà.
Alors, effectivement, donc c'est un match dont les gens ont envie, le fameux Triple Threat, même besoin, je dirais, toi, ça va au-delà de l'envie. Alors, un autre match, une autre affiche que les gens ont envie, je ne sais pas s'ils en ont besoin, mais en tout cas, ils en ont envie, en tout cas, les smarts en ont envie, c'est évidemment le match qui va opposer AJ Styles à Dieu.
C'est ça, Dieu tout-puissant.
Dieu Tout-Puissant, AJ Styles versus God. Sachant qu'il y a déjà eu un match C'était HBK qui avait affronté Dieu, je crois, dans une vieille histoire.
Oh
Ouais.
oui.
Donc, là, pour la peine, alors c'était de la rigolade, mais là, c'est du sérieux, hein, puisque c'est John Cena.
C'est ça, c'est enfin le vrai du coup.
Le vrai Dieu, l'unique. Tu m'as retourné le cerveau maintenant, je suis Giscard. Alors, donc, John Cena arrive, vient chauffer la salle, parce que ce soir, on a ni plus ni moins qu'une signature de contrat.
C'est ça.
Entre les deux, donc c'est une bonne vieille signature de contrat qui apparaît quand on en a besoin. Parce que je ne sais pas d'ailleurs qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'ils signent les comptes? Est-ce qu'il y a une signature de contrat pour tous les matchs et si ça se passe en backstage, on le voit pas et qu'ils décident de le faire
sont les
sur le
ce
ring quand
sont
c'est
les
important?
grandes ce sont les grandes questions insolubles du catch.
Ou est-ce qu'il y a vraiment des signes? Ou est-ce qu'il n'y a pas de signature de contrat et
Non.
qu'il y en a juste comme ça de temps en temps?
Ça fait partie des incohérences historiques qu'on a fini par laisser tomber, ça, parce que on ne sait pas, on ne sait pas. Voilà, il y a une signature quand il y a une signature, puis voilà.
Et donc là, pour la peine, il n'y a pas un contrat ce soir, mais deux contrats. Et oui, John Cena est venu avec deux contrats. Donc, pourquoi il est venu avec deux contrats? Et bien tout simplement parce que AJ Styles a évidemment le rejoint. Il lui propose deux contrats. Un premier avec une affiche AJ Styles versus John Cena.
Point.
Point. D'homme à homme. Et l'autre avec John Cena versus le Bullet Club,
C'est ça.
c'est-à-dire AJ Styles avec le Bullet Club en support.
Voilà. Donc là, pas d'homme à homme, mais d'homme à bitch.
D'homme à bitch, exactement. Donc si AJ Styles signe le fameux contrat avec le Cena versus le Bullet Club, enfin le Bitch Club,
C'est ça.
exactement, John Cena lui dit, bah écoute, tu gagneras à coup sûr. Mais tu seras le fameux capitaine du Beach Club, c'est bien
C'est
ça.
ça, exactement.
Donc AJ Styles lui rétorque que si la WWE l'avait pas snobé, ignoré pendant toutes ces années, etc., bah, ce serait lui le visage de la WWE, il serait à la place de John Cena. Ce à quoi John Cena lui répond, écoute, t'es bien gentil mon grand, mais t'es ni le premier ni le dernier à me dire ça, ce qui est vrai d'ailleurs.
Oui.
Tu es comme tout. Alors là, je crois effectivement qu'il a dit qu'il était comme tous les autres indie guys.
Oui, exactement, ouais.
En passage, John Cena dit vraiment ce qu'il veut, hein, parce qu'il y a quand même tout un champ lexical qui est normalement, on va dire.
Exactement, oui. Et puis il a name droppé un paquet de fédérations.
Ah ouais, la Japan, la ROH.
IWG, ouais. On a eu le droit à un paquet de choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre.
Ouais. Ouais. Ça se demandait si c'est redevenu autorisé ou pas, hein, quand même, parce que.
Je pense pas pour tout le monde.
Ah, c'est ça. Dieu, ok. Dieu à l'aura. Et donc, bah, effectivement, ces fameux indie guys qui se plaignent, mais ne saisissent pas l'opportunité quand elle se présente enfin, finalement. Après tout, ce qui est vrai, AJ Styles, bah, il est là. Il est là. Hein, il est à l'affiche. Il est booké. Il a l'opportunité d'affronter Roman Reigns par deux fois pour le titre. Et maintenant, contre John Cena. Donc, on peut pas dire qu'on lui donne pas sa chance.
Ah non.
Ça, non. Donc, que va faire AJ Styles? Moment de suspense, évidemment. Quel contrat va-t-il choisir? Quel contrat va-t-il signer? Eh bien, vous le saurez au prochain numéro de Catch Up.
Quoi?
Évidemment, AJ Styles. Enfin, évidemment, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, ça me paraît comme une évidence. Mais bon, on ne sait jamais. Signe le contrat du match d'homme à homme, AJ Styles versus John Cena.
C'est ça.
Validant ainsi ce qui s'annonce d'ores et déjà comme un dream match. Justement, ce dream match-là, à la fois la manière dont elle a été bookée, est-ce que, enfin, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que finalement, c'est pas justement donner un match dont on a envie et sans forcément le booker de façon, enfin, autrement que le fameux dream match? C'est un peu ce qu'on pourrait reprocher à ce genre de match
Ouais,
booké.
ouais, ouais. C'est une bonne question. C'est vrai que, bon, c'est clairement, ils ont choisi cette stratégie hein, de booking. Ils ont dit, bah voilà, c'est le dream match, c'est tout. Tout le monde a envie de le voir, le voilà. Après, j'ai envie de dire, bon, c'est un angle comme un autre. C'est difficile de nier que c'est pas un dream match, puisque je pense que tout à l'heure, tu disais. Tu parlais du fait que bah, voilà, c'est un match, le Money in the Bank et le Triple Threat, c'était un match dont le public avait envie, voire même besoin. Je pense qu'on peut aussi appliquer ce raisonnement à ce match-là, parce que je pense qu'il y a une partie du public, tout le public fan de catch et pas juste fan de la WWE, donc WWE, et donc vraiment fan des autres promotions et du parcours de AJ Styles, je pense, d'une certaine façon, ont aussi besoin de ce match. Besoin de voir enfin AJ Styles affronter ce qui pour certains incarne vraiment le parangon de ce qui déteste. Enfin, c'est vraiment le Cena incarne quand même pas mal le
Le catch
prototype.
déviant.
Oui, enfin le catch déviant, mais le
Spectacle.
prototype McMahonesque, voilà, le bodybuildé.
Ah tiens, juste je te coupe, c'est marrant que tu dises prototype, parce que John Cena, son premier nom de catcheur, c'est The Prototype.
C'est ça, exactement. Mais du coup, voilà, c'est un secret pour personne que voilà, John Cena incarne quand même, cristallise les critiques de tout ce que Internet déteste dans WWE et dans la gestion du catch de Vince McMahon. C'est vraiment voilà, c'est le porte-étendard d'une fédération qui se croit au-dessus de toutes les autres, surpuissante, qui écrase la concurrence. Donc c'est vrai que de voir AJ Styles affronter John Cena, je pense que c'est pour une certaine partie des fans de catch, enfin l'occasion de pouvoir voir un de leurs chouchous se mesurer et dire bah voilà, vous voyez, il y a d'autres alternatives, il y a d'autres top guys dans le monde de catch qui peuvent tout à fait être crédibles et prendre le spot de Cena.
C'était une approche d'ailleurs qui a été un peu faite avec sa rivalité avec Chris Jericho.
Un petit peu, oui, c'est vrai,
Alors,
exactement.
Chris
Donc,
Jericho n'est pas John
sûr.
Cena et Chris Jericho a quand même un background un peu plus international que John Cena. Il ne représente pas forcément la WWE autant
Moins.
que John Cena, hein. Mais il y
Non.
avait eu un peu également déjà un peu cette approche, toi, de OK, AJ Styles, tu es une star
C'est ça, mais
internationale, mais
elle était peut-être plus basée sur le côté le côté un peu rookie à la
Ah bah
WWE, dans le
c'était ça,
sens
oui, c'était
voilà,
clairement ça.
ou dans le sens écoute, c'est pas parce que tu es une star ailleurs que tu vas être une star ici, donc du coup il faut faire tes preuves. C'était vraiment le baptême du feu, la faute d'entrée de jeu dans le roster. Voilà, écoute, t'es peut-être une star ailleurs, mais maintenant on va voir ce que tu donnes dans le ring. Là, on est plus, on est, je trouve qu'on est, on va plus loin dans le côté vraiment, parce que c'est pas ce qu'il dit. Il dit pas, c'est pas parce que t'es une star machin que tu pourrais, que tu vas réussir à la WWE. Là, c'est carrément, c'est pas parce que t'as été une star partout que tu vas être John Cena. C'est, enfin, il y a vraiment une opposition. Je trouve que dans la rivalité et dans la promo, c'était ça qui était assez dingue. On mettait presque John Cena au-dessus de la WWE. C'était, hey, mais moi, si j'avais été là il y a 15 ans, écoute, John, tu serais pas ce que tu serais aujourd'hui. J'aurais gagné plein de titres. C'est moi qui serais, toi, quoi.
Time
Enfin,
champion.
ouais. Donc c'est vraiment le voilà, AJ Styles versus John Cena et pas juste le indie guy versus. Le mec qui à la WWE, le champion WWE. Donc je trouve que c'est vraiment pas mal comme opposition, et ça va mettre en porte-à-faux un clash de deux franges de fans. Donc c'est vraiment pas mal. Et c'est pour ça que je trouve que c'est pas juste un dream match, quoi. Je pense qu'il y a vraiment un besoin derrière et une vraie tension, une vraie attente. Sur ce match qui transcende juste le simple fait qu'on va avoir un match 5 étoiles potentiel dimanche, ça va être vraiment un match important, je pense.
Et du coup, pour toi, enfin, est-ce que tu penses que ce match sera, comment dire, un one shot, toi? Ou est-ce que tu
Non.
aimerais que ça donne naissance
Je
à
pense pas. Je pense
une
que
sorte de rivalité entre les deux?
vu le Bon, après, c'est peut-être que je surlis la promo et cette signature de contrat, mais je pense que vu l'attention qui a été apportée, je trouve, à cette promo, à cette intensité, à ce lancement vraiment d'animosité entre les deux, je pense qu'on est parti pour une feud qui peut s'avérer pas forcément une série de matchs, mais une longue rivalité à la WWE, à l'instar de ce qui a pu être entre les rivalités avec Orton ou avec CM Punk. C'est des rivalités qui ont duré sur plusieurs années et pas forcément sur plusieurs pay-per-view à la suite. Je pense qu'on peut partir dans quelque chose comme ça parce qu'il y a une telle opposition de style et un tel historique, pas entre les deux personnes, mais entre les deux choses qu'ils incarnent. Qu'on peut avoir vraiment une grande histoire qui va naître de ce match, encore plus s'il est excellent. Et d'ailleurs, le fait que ça se passe à Money in the Bank, c'est même encore plus symbolique, puisque c'est aussi le lieu de naissance d'une des feudes les plus dingues
CM Punk.
qu'on ait pu avoir justement autour de John Cena et de cette animosité entre le monde indépendant, enfin, et le monde de l'entitlement, je sais pas, enfin, de qu'incarne la WWE. Voilà, c'est le fait de tout est acquis comme ça dès le début en fonction de qui est choisi pour être le top guy et pas la méritocratie, le travail, la sueur, tout ça. Donc voilà, je pense que il y a quelque chose de très symbolique et de très fort dans cette affiche qui fera que ce ne sera pas juste un one shot.
Alors une autre affiche du coup là qui est vachement symbolique et ce sera la dernière séquence on va dire un peu regroupée pour cet épisode de Raw, c'est le match tout simplement hein, Money in the Bank, le ladder match qui sera également au centre de toutes les attentions pour le pay-per-view du même nom. Donc eh ben c'est assez simple hein, puisque on a eu tous les protagonistes de ce futur match pour le
C'était très amusant. Ouais.
Pour la mallette qui se retrouvait un peu les uns face aux autres ou les uns avec les autres face à d'autres. Je vais aller assez rapidement malgré tout, on s'arrêtera sur les points importants. Le premier match c'était Cesaro contre Sami Zayn qui était illustré tout d'abord, enfin qui était amené tout d'abord par une séquence backstage où Cesaro reprochait à Sami de se comporter comme un enfant parce qu'en effet il venait, à ce moment-là Sami venait un peu de s'incruster. Lors d'une interview entre Cesaro et René Young, je crois qu'il dit tout simplement qu'il passait par là, il s'est dit je vais me mettre là au cas où René Young, t'as quelque chose
Ouais,
à me demander,
exactement.
voilà, je suis disponible quoi. Le mec s'est rendu disponible, ce qui n'a pas trop plu à Cesaro, qui a dit que voilà, c'était un gamin, qu'il avait encore beaucoup à apprendre. Alors effectivement, on sait qu'en plus il y a un petit historique entre les deux, notamment à NXT. Du coup, ce soir, bah, ils s'affrontent dans un match, donc plutôt agréable, puisque bah, voilà, des matchs de face contre face, c'est comme les matchs de heel contre heel, il n'y en a pas beaucoup, et puis on aime bien quand on en a. Donc en plus, c'est un match bah, évidemment très technique, hein, de haute volée, qui s'est soldé tout simplement par bah, une victoire, un peu inattendue, je
Assez
trouve,
inattendu, je dois l'avouer, je m'y attendais pas non
ouais,
plus.
de Sami Zayn. Sur Cesaro, qui bah, du coup, l'histoire dans l'histoire, c'est qu'il prouve à Cesaro que bah, il est prêt pour le fameux Money in the
C'est
Bank
ça.
ladder match. Alors, j'imagine que c'était l'idée des bookers, c'était de pas faire de Sami Zayn trop un loser, quoi. Parce que c'est un peu ce qui s'était passé les semaines précédentes, notamment avec son match qu'il avait perdu rapidement et inexplicablement, peut-être pour certains, face à Alberto Del Rio, je l'ai retrouvé. Et le patron. Là, voilà, victoire clean de Sami Zayn sur Cesaro. Donc on rabat un petit peu les cartes, ou en tout cas on remet un peu à niveau les protagonistes
Ouais, c'était intéressant. Il
avec
avait
ce
besoin d'une
match.
victoire, je pense. Et Cesaro, lui, en avait déjà glané quelques-unes, donc c'était plutôt bien joué.
Bah, ce qui est bien, c'est que justement Cesaro en avait un peu trop, et là c'est plutôt positif cette
C'est bien.
défaite de Cesaro. Il rompt sa
Ouais.
malédiction des victoires
C'est
en
ça.
weekly.
Puis la petite interaction backstage, pourquoi pas, peut-être une si jamais ils ont besoin de s'en servir plus tard pour faire une mini feud entre les deux,
Tout
pourquoi
à
pas,
fait.
ça peut être une base, c'était pas trop mal.
Pour la peine, on a eu un match face contre face. Alors on n'a pas eu un match heel contre heel, mais on a eu deux heels qui se sont pris un peu le chignon backstage. Évidemment, c'est Kevin Owens qui vient lors d'une de ces fameuses séquences impliquant les McMahon, qui vient cafeter. Au sujet d'Alberto, mais vraiment genre en mode maîtresse,
Ah non, mais
maîtresse.
c'est exactement ça.
Il y a Alberto Del Rio, il arrive en retard. il est arrivé, je sais pas, il y a 5 minutes, quoi. Est-ce
C'est ça.
que, du coup, faut le punir, il faut bah, tout simplement l'exclure du match à Money in the Bank. Donc tous les coups sont permis, évidemment, pour Kevin Owens. Malheureusement pour lui, Alberto Del Rio est arrivé en retard, certes, mais il est là. Donc il débarque furieux, hurlant qu'on lui a monté un piège, qu'il est resté coincé 5 heures à l'aéroport, suite, j'imagine, à un appel peut-être anonyme. Hein.
C'est ça, exactement.
Donc évidemment, il sait que c'est Kevin Owens, donc il l'insulte de tous les noms. Ken, justement, dont on a parlé au début de ce podcast, propose un petit exercice de motivation, hein, lui qui connaît un peu ce genre de situation, on se souviendra du docteur Shelby,
Exactement.
qui propose donc un tag team mettant donc Alberto Del Rio et Kevin Owens aux prises avec les Lucha Dragons. Donc Alberto Del Rio et Kevin Owens devront apprendre à travailler ensemble lors de ce match.
Et
Donc,
il y a une stipulation.
et il y a une stipulation,
Oui.
effectivement, qui n'est pas n'importe laquelle, et ça fait plaisir d'avoir ce genre de petite stipulation pendant une road. Si les Luchadors l'emportent, ils prendront alors la place de leurs opposants au
C'est ça.
fameux match Money in the Bank. Donc, le match prend place. Alors, il y a évidemment des tensions énormes entre les deux, hein. Clairement, ils s'entendent pas, mais ils
En
essayent
même
quand
temps,
même.
ils n'ont pas envie de perdre leur spot.
Exactement, donc ils se bagarrent pour le tag à tout moment. Ils sont pas très confiants, hein. Ils veulent garder leur spot, comme tu dis. Ils finissent par remporter le match. Donc, conservent ainsi leur place pour le Money in the Bank. Et évidemment, le Mexicain, donc Alberto Del Rio, assomme Kevin Owens d'un gros coup de pied bien placé pendant la célébration. Parce que voilà, on était ensemble pour le temps d'un match, mais back to reality, fallait pas me faire une sale blague à l'aéroport. Donc, est-ce que toi, ça a un peu marché cette petite stipulation de dernière minute là, avec le
Écoute, ouais,
Chador?
moi nickel. Enfin, franchement, là pour le coup, ça c'est du booking de qualité, je trouve, parce que il n'y a pas d'erreur. C'est bien amené. On met en avant tout le monde. On donne une raison d'exister au match et puis un petit rebondissement de dernière minute. Donc c'est vraiment, je trouve, du très bon boulot pour un go home show. J'ai pas l'habitude d'avoir ce genre de petites surprises, donc j'ai trouvé ça très très bien. Parce que du coup, comme tu dis, on continue. Enfin, Owen, c'est absolument hilarant dans ce rôle de heel. Là, quand il vient cafeter, c'est juste trop drôle. Il arrive à Shane, hein, il est arrivé 20 minutes en retard. Il faudrait le punir, je pense qu'il faudrait le sortir du match. C'est avec son air tout contrit là, c'est juste génial. Donc du coup, après le rôle de Kane, je trouve de booker le match, c'est assez marrant aussi. Bon, bah écoute, ok, les gars, vous vous entendez pas, bah 2 contre 2 contre les Lucha Dragons. S'il n'y avait pas eu la stipulation, le match aurait été absolument stupide puisque Del Rio et Owens n'auraient eu aucune raison de jouer le jeu. Donc du coup, c'était très intelligent entre guillemets d'un point de vue purement booking de rajouter cette stipulation parce que sinon on aurait encore hurlé à la débilité totale du
Oui,
fait que
avec un des deux qui abandonne
bah
l'autre en plein
oui
match, quoi.
il suffit qu'un des deux abandonne l'autre ou que de toute façon ou qu'il se fasse disqualifier tout simplement écoute ils prennent des chaises ils se foutent sur la gueule des deux masqués d'en face dont ils ont rien à foutre et puis ils se cassent et ils vont retourner à leurs affaires. Donc là c'était très bien joué parce que du coup ils sont obligés de jouer le jeu, ils sont obligés de s'entendre alors qu'ils se détestent manifestement. Donc déjà rien que ça c'est très amusant, ça a donné lieu à un match ma foi plutôt sympa. Et puis du coup à la fin on donne quand même le dernier mot à Del Rio parce que il en a bien plus besoin que Kevin Owens et puis c'est bien plus logique d'un point de vue de l'histoire qui est racontée. Donc du coup de A à Z je trouve que c'est une histoire bien ficelée, ça nous a donné un petit rebondissement, évidemment sans aucun suspense particulier parce que les Luchadors vont bien évidemment pas prendre la place dans le Money in the Bank de Del Rio Owens, mais encore une fois, peu importe. Il y a des choses prévisibles qui sont très bien écrites et très bien amenées et qui ajoutent un peu de sel à l'émission et ça en faisait partie. Donc j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très très bien et très sympa en vue de dimanche.
Donc il nous reste plus que deux protagonistes évidemment dont on n'a pas parlé. Enfin si, on en a parlé déjà, Dean Ambrose, parce qu'il était dans sa séquence de l'Ambrose Asylum, qui était opposé ce soir à Chris Jericho. Alors c'est un petit peu le bordel, c'est-à-dire
Oh là
qu'on
là.
avait le match Chris Jericho contre Dean Ambrose. Au
Mais.
commentaire, mais au commentaire, alors je ne sais plus lequel était invité en premier,
Sami Zayn en premier.
Sami Zayn était invité au commentaire, je ne sais plus pourquoi d'ailleurs, quelle était la raison.
Je crois qu'il avait demandé à Shane, c'est tout.
Bon, ben bah voilà. Il faut, il suffit de demander, hein.
Oui, il me semble, si je dis pas de bêtises.
Kevin Owens, évidemment, n'est pas content. Il veut également être au commentaire.
Donc lui, il a demandé à
Et donc,
Stéphanie.
lui, il a demandé à Stéphanie, qui a trouvé que l'idée était bonne, hein.
Ah oui.
Donc, au commentaire, on a Sami Zayn et Kevin Owens. Del Rio également est arrivé, lors de la même séquence, je suppose. Pour dire, attendez, si Kevin Owens est au commentaire, moi aussi je veux être
Ouais,
là.
exactement.
Donc on n'a pas eu trois commentateurs, mais on a eu un timekeeper.
Ouais,
Donc
Special Timekeeper. Ouais.
Special Timekeeper. Donc
Sonner la cloche.
voilà, voilà, ce qui doit sonner la cloche. Et mine de rien, on a eu pas, il y a déjà eu des botches hein, de
C'est
cloche
ça, il a très très bien
dans
sonné la
l'histoire.
cloche,
Donc
il faut le souligner.
c'est un rôle important. Et alors ça, je crois pas que ça avait été booké, si je puis dire, mais Cesaro a été en annonceur du match.
Si si
Ah bon?
ça il me semble que attends je vais peut-être dire une connerie je ne sais plus
Moi, en tout
s'il
cas,
l'a
ça m'a
demandé ou
surpris que
pas
je l'ai entendu commencer à dire, commencer à annoncer le match.
je crois que enfin je sais plus en fait je crois que Zayn et Cesaro on n'avait pas vu les annonces mais c'est en fait c'est les heels qui sont venus se plaindre de la présence des deux pour bah,
D'accord.
du coup s'incruster
Oui, c'est ce qui est logique, effectivement.
et donc Cesaro était en effet special ring announcer.
Donc, j'ai rien noté du match, si ce n'est victoire de Dean Ambrose face à Chris Jericho. Donc, si tu as quelque chose à dire sur le match qui t'a particulièrement
Non,
marqué pour cette énième rencontre, cet énième duel entre Dean Ambrose et Chris
non,
Jericho.
c'était pas mon préféré. Ce qui était, mais toujours est-il que j'ai quand même passé un bon moment pour tout ce que tu as mentionné juste avant, parce qu'en effet, c'était assez drôle de
C'est
voir tous
tout
les
ce fameux
participants.
décorum dont tu
Ouais,
parles souvent qui était mis en place là, qui rendait
exactement.
ce match
Ouais.
intéressant.
C'était finalement assez drôle. Et en fait, ils se sont habilement servis de quelque chose qui n'est pas forcément très intéressant de prime abord et qui est plus du remplissage, je pense, qu'autre chose, à savoir le fil rouge de qui va gérer SmackDown. Parce qu'en fait, ils n'en ont strictement aucune idée, à mon avis. Donc, je pense qu'on va avoir un running gag chaque semaine. Mais du coup, là, on va dire qu'ils s'en sont servis pour un truc assez fun, parce que du coup, ils se sont servis de la feud entre Shane et Stéphanie pour finalement incruster un par un les membres du Money in the Bank au main event, puisque chacun leur tour, ils allaient dire bah, écoute, Shane en nommait un, donc du coup Stéphanie en nommait un autre, Shane en nommait un, Stéphanie en nommait un autre, et puis bah, au final, ils étaient tous là. Et donc c'était assez rigolo. Owens a été hilarant aux commentaires. Il a pourri Byron Saxton d'une force, et Sami Zayn aussi, c'était
Ils doivent
juste.
vraiment être amis dans la vie,
Ah oui.
Byron et Kevin Owens, pour qu'ils
C'était juste
s'entraînent comme
trop
ça.
drôle. Le Cesaro en costard en ring announcer là, qui annonce Jericho qui vient
Ah
de
oui.
Stupid Town du Canada ou je sais pas quoi. Enfin bref, voilà, c'était assez drôle. Del Rio qui contracte, enfin qui fait le timekeeper en slip en contractant ses cuisses.
C'est à voir, c'est quelque chose à voir là.
C'est quelque chose à voir. Donc bref, c'était plein de petits détails qui pris à droite à gauche tout autour du match qui étaient corrects, font que c'était vraiment fun à suivre. Et puis bah après évidemment
Ça se termine, tout le monde se met sur la
voilà,
gueule après le match.
se met sur la gueule
Et
forcément.
l'émission se termine sur cette image magique de Chris Jericho qui monte seul sur l'échelle
Oui.
et qui va décrocher la fameuse mallette.
Ça, il faut qu'il en profite puisque ce sera la seule fois de sa carrière.
Booking inversé, tout ça. Le mec qui dit qu'il a. Enfin, l'inventeur qui n'a jamais gagné le match
Je pense que
qu'il a
c'est celui qui a
inventé.
peut-être le moins de chance avec Del Rio de gagner.
Voilà. Au passage, j'ai refait sa petite pose là, de dandy, je ne sais
Ouais,
pas,
absolument.
qui a fait le tour du monde avec ce mème là sur Internet. Hein. Et donc, bah, ça se termine là-dessus, ça se termine sur ce booking, ce main event qui est pour le match phare, si je puis dire, en tout cas.
Ah ouais, bah,
Qui justifie le nom du pay-per-view.
c'est ça.
Money in the Bank. On va passer à la note, mon cher Giscard.
Oui.
Alors, déjà, tu m'as teasé hors micro que tu avais adoré cet épisode et que tu allais probablement le sanctionner d'une note assez
Exceptionnel.
exceptionnelle. Donc, je n'en peux plus. Dis-nous tout.
Eh bien, écoute, je vais mettre 4 sur 5 à ce Raw. Ça aurait pu être plus, hein, mais je vais me calmer quand même parce que tout n'a pas été excellent. Et puis, je sais que je fais parfois un excès d'enthousiasme Quand je suis pas là, on me le rappelle trop souvent.
Ah, mais chacun doit... chacun son gimmick, hein.
Mais non, mais je vais mettre 4 sur 5 et j'ai trouvé, qui est de toute façon une excellente note, parce que j'ai trouvé ce Raw excellent. C'était de mémoire, je pense, le meilleur Go Home Show que j'ai vu cette année, sans problème. Parce qu'il y avait tout, en fait. Enfin, toutes les grosses affiches ont été, je trouve, parfaitement teasées. En fait, on n'a qu'une hâte, c'est d'être à dimanche pour voir ces quasi trois co-main events, parce que y a vraiment trois énormes co-main events avec AJ Styles, Cena, Roman Reigns, Seth Rollins et le Mallet Match, qui ont été voilà, qui ont pris des places centrales dans l'émission, avec des décisions de booking, des promos très intelligentes, des décisions de booking très intelligentes de manière générale, un très très bon équilibre. À côté de ça, je trouve que le travail sur les tag teams a été plus intéressant que l'affiche en elle-même. L'affiche en elle-même m'emballe pas des masses. Le Fatal 4-Way, comme je l'ai dit en tout début de podcast, je trouve que c'était un peu facile et pas forcément justifié. Mais en tout cas, en ouverture, ils leur ont donné le segment d'ouverture, ce qui était malin. Et puis ensuite, derrière, un bon match qui a mis un petit peu tout le monde en valeur. Et notamment le fait de mettre le club en favori, je trouve que c'est pas mal aussi. Donc c'était très correct. Après, par contre, voilà, y a des points très négatifs qui font que je mettrai pas plus. Mais comme on en a largement parlé aussi des filles, je trouve que c'est même pas décevant, c'est carrément, enfin, ça en devient triste à ce niveau-là, je
Ah
trouve.
oui, c'est triste.
Ça en devient triste d'être juste incapable de faire quoi que ce soit, ou en fait, je pense pas qu'ils soient même pas incapables. Je pense que à ce niveau-là, ils ont juste pas envie, en fait, de faire quelque chose avec les filles, parce que
Oui, on sait qu'ils sont capables, toi.
ouais, on sait qu'ils sont capables. Donc pourquoi proposer comme ça un tag team match sans saveur et un booking sans queue ni tête pour la championne, des victoires qui ne signifient rien à quelqu'un qui, enfin, à Paige, Dana Brooke qui est absolument désespérante. Je suis vraiment voilà, je suis assez déçu de ça. Et puis sinon, pour être parfaitement complet, écoute, je reviendrai peut-être sur les matchs de low card finalement qui vont parsemer le pay-per-view entre les trois grosses affiches. Je trouve que c'est assez ça faisait longtemps, j'en avais parlé vite fait sur le forum, et je crois que je suis désolé pour celui qui partageait aussi ce point de vue, finalement, d'un pay-per-view un petit peu grand écart, je me souviens plus qui c'était. Mais au final, je pensais la même chose que lui. C'est assez rare, je trouve, ces pay-per-views où finalement, je suis super excité pour X nombre de matchs et absolument indifférent au reste de la carte. C'est assez particulier comme carte, finalement, de pay-per-view. Il y a vraiment, voilà, il y a trois matchs, moi, qui me surchauffe. Enfin, vraiment, j'ai vraiment très très hâte d'être dimanche pour les voir. Et je pense que ça va être absolument exceptionnel. Le Fatal 4-Way, bon, est un peu à mi-chemin, parce que je pense que ça va être aussi plutôt sympa. Mais je suis pas non plus complètement au bord de la syncope de voir ce match.
Disons que pour faire le grand écart, il faut quelque chose quand même au milieu, toi.
Oui,
Donc
voilà.
on n'a qu'à dire que
Ouais.
c'est le fameux Fatal Four, ouais.
C'est ça. Mais par contre, à côté de ça, alors je pense que le tag team des filles, je le regarderai même pas. Je pense qu'on picolera pendant ce temps-là avec les autres. Le match Sheamus Apollo Crews, ça m'est égal. Le Baron Corbin Ziggler, j'en parle même pas. Donc voilà, ça c'est vraiment, c'est assez particulier comme construction de carte. Au final, est-ce que ça n'en rendra peut-être pas le pay-per-view plus épique, parce que justement, il va y avoir un tel focus sur ces matchs-là que j'espère qu'ils vont avoir vraiment beaucoup de temps
Oui.
et on va pouvoir mettre vraiment bien l'emphase sur ces trois grosses
Oui.
affiches.
Peut-être qu'on y
C'est peut-être
sera.
pas
T'as
plus
raison.
mal, hein.
Peut-être qu'on y sera gagnant
Il
par
sera peut-être
rapport à
gagnant
ça.
finalement,
Hein.
au lieu d'avoir une carte extrêmement homogène, extrêmement équilibrée, sans finalement clou du spectacle, et puis tout le monde prend 12-13 minutes, et puis on sort du pay-per-view sans gros souvenir particulier. Là, je pense que ce sera tout l'inverse. À mon avis, on va passer une sacrée soirée.
Bah écoute, moi je vais rapidement donner ma note aussi. Je vais pas la justifier parce qu'en fait, ce serait reprendre exactement les mêmes arguments que toi. Par contre, je vais être un peu moins généreux sur la note. Pour autant, je mettrai un bon 3,25, Ok, c'est très 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 correct. Après voilà, ce que je reproche un peu, voilà, c'est effectivement tous ces matchs qui ont été bookés un peu au dernier moment. Voilà. Certains, voilà, genre le Fatal Four Way, je serais content de le voir, mais comme tu dis, bon bah ça a été validé au
C'est
dernier
vrai.
moment. Bon,
C'est un peu dommage.
typiquement ce genre de choses. Mais après, tout le reste était quand même. Ouais, c'est le grand écart. C'est le grand écart, hein. C'est vrai que tu regardes. C'est le grand écart. Donc on verra ce que ça a donné. On va passer. Normalement, on a la fameuse question à la con. Qu'on a toujours du mal à trouver une vraie question à la con. C'est plus vraiment une question à la con. Pour ce numéro de catch-up, on n'aura pas une question à la con. On aura une question à la VGTax. Alors, qu'est-ce que c'est une question
Qu'est-ce
à
que
la
c'est que ça?
VGTax? VGTax, c'est tout simplement un auditeur qui a commenté sur notre chaîne YouTube. Parce que dorénavant, catch-up est diffusé aussi sur YouTube. Alors, vous ne verrez pas nos gueules. Même si certains nous le réclament. Peut-être un jour, on ne sait pas, il
Sait
faut.
jamais.
Voilà, faut peut-être d'abord qu'on passe sous bistouri, j'en sais rien. Mais toujours est-il qu'on a eu un commentaire d'un auditeur avec tout un paquet de questions. Alors, du coup, l'idée, c'est que je vais poser les questions et toi, Giscal, tu vas répondre le plus rapidement possible.
Ah,
Limite, si tu peux
d'accord.
me dire oui, non, jaune ou bleu, ça m'arrangerait.
D'accord.
Je vais
Oh,
peut-être
putain,
pas poser toutes ces questions parce que,
je suis
bah,
pas
il
très
faut.
fort pour ça, mais
On va voir, on va essayer, on
j'ai
va
plutôt
voir.
l'habitude de parler trop. Alors,
Oui,
vas-y.
bah c'est pour ça, on va voir si tu arrives à te contenir.
Alors, c'est parti.
Alors, en plus, première question, pourquoi John Cena n'est plus hué?
Parce qu'il est fantastique.
Ok. Quelles sont les actualités, les grosses fautes du moment?
Ah bah, c'est les trois qu'on a cités, hein, Money in the Bank, John Cena et AJ Styles, et la feud autour du titre majeur.
Alors, question ouverte, mais auxquelles il faut répondre par oui ou par non. Qu'est-ce qui se prépare pour l'avenir?
Oui.
Tu vois, quand tu veux. Est-ce que la PG Eras est de l'histoire ancienne? Ou est-ce qu'on est encore bloqué par la PG Era?
Je
Non?
pense.
D'accord. Pourrait-on revenir à des écuries séparées? Ouais. Alors là, visiblement, le mec ne regarde même pas Raw, en fait, toi.
Bah écoute, oui, parce que manifestement, non, pas tout droit, mais
Ceci dit,
oui.
ils sont pas préparés.
Non, non, mais oui,
Voilà. Ils ont dit qu'ils allaient le faire.
je pense que c'est tout à fait possible et même.
Est-ce que Triple H lutte depuis la perte de son titre face à Roman Reigns?
Comment ça, est-ce qu'il
Ah,
lutte, c'est-à-dire?
la question est pas très bien posée. Pardon Vegetax, mais bon, là, il demande est-ce que Triple H a combattu depuis son titre perdu?
Bah écoute, il combat en house show, puisqu'on l'a vu.
Ah, tu l'as vu, donc tu peux confirmer.
Donc
Tu
je
l'as
peux
vu.
confirmer.
Tu as vu le dernier match de Triple
Il
H.
combat en house show.
Est-ce que Rock travaille toujours à la WWE?
Bon, il travaille sans y travailler vraiment,
Je dirais qu'il travaille pour la WWE, mais pas à la WWE.
Mais oui, il travaille toujours pour la WWE, oui.
Merci par avance, bonne chance pour répondre à tout. Bon voilà, j'espère que tu as eu les réponses à tes questions. Donc n'hésitez pas à faire comme Vegetax hein, si vous avez des questions à poser à Giscal.
C'est du coup, c'est pas très développé, hein, mais bon, voilà.
Si vous avez moins de questions à poser, on pourra passer plus de temps dessus et ça remplacera peut-être même la rubrique questions à la con. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube, vous tapez Cahier du Catch et vous devrez nous trouver. Donc n'hésitez pas à commenter et à poser des questions ou juste nous dire ce que vous avez pensé de l'émission. Enfin, on va terminer par l'exercice peut-être le plus difficile d'entre tous. On a été à un Go Home Show. Qui dit Go Home Show dit pronostic. Qui dit
Ah.
pronostic dit notre séquence hommage. Et je tiens à préciser que c'est un hommage. Hein. Et
Oui,
non
c'est
point un
plagiat.
plagiat
C'est plagiat.
de Year of Donc, c'est un Feud of the Year. On les salue bien à nos amis de Feud of the Year, évidemment. C'est un Feud of the Year inversé, c'est-à-dire que il faut pronostiquer le ou les perdants des différents matchs qui composent Money in the Bank en l'occurrence. Donc je reprends vite à vite. Donc pêle-mêle, Giscard, es-tu prêt?
Je suis prêt, ouais, j'ai pas réfléchi, mais je vais réfléchir en même temps.
Alors, Charlotte et Dana Brooke versus Natalia et Becky Lynch.
Voilà, là c'est un vote, j'espère que c'est Becky Lynch et Natalia.
Ah oui, moi je dis donc Charlotte et Dana Brooke. On est bien d'accord, hein, c'est qui va perdre?
Ouais.
Ok, d'accord. John Cena versus AJ Styles.
Eh bien, écoute, John Cena.
Eh ben, je dirais AJ Styles. Roman Reigns versus Seth Rollins pour le titre de champion.
Seth Rollins.
Et moi, je veux dire Roman Reigns. Disons qu'on n'a pas le droit de dire no contest ou quoi, donc c'est pas évident. Alors, Fatal 4 Way, donc New Day versus Enzo et Big Cass versus le club versus les Woodville.
Eh bien, écoute, Enzo et Big Cass, The Club et les Vaudevillains.
Pareil. Rusev versus Titus O'Neil.
Titus O'Neil.
Titus O'Neil, on est d'accord. Dolph Ziggler versus Baron Corbin.
Dolph Ziggler.
Baron Corbin. Et enfin, le. Ah non, 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 attends, il y en a encore un autre. Oh putain, tous ces matchs de en pré-show, c'est pas possible.
Oui, Apollo, là.
Apollo versus Sheamus.
Sheamus.
Sheamus, on est d'accord. Et enfin, je l'ai gardé pour la fin parce que c'est quand même le nom du pay-per-view qui vient de là. Money in the Bank Ladder Match for WWE World Heavyweight Championship Match Contract. Ils sont les forts. Dean Ambrose versus Chris Jericho versus Sami Zayn versus Del Rio versus Cesaro versus Monsieur Wrestling Kevin Owens.
Eh bien, Kevin Owens, Cesaro, Jericho, Del Rio et Zayn.
Eh ben, tu m'as bien convaincu tout à l'heure pendant ce numéro, du coup, je te rejoins à 100%. C'est ainsi que s'achève notre numéro de catch-up, le numéro 8. C'était l'Euro du 13 juin 2016, le Gome Show pour le Money in the Bank. N'oubliez pas d'aller pronostiquer à la fois chez nos amis de Fud of the Year, mais également sur le site des Cahiers du Catch. Par contre, pronostiquer les gagnants.
Si possible, hein, vous faites.
Ne faites pas comme nous. Ne faites pas ça à la maison. Vous pouvez nous suivre évidemment, alors là faut pas que je me trompe, sur iTunes, PodCloud, on est podcasté donc sur n'importe quelle application de podcast, mais également sur Mixcloud et dorénavant sur YouTube. Donc si vous aimez l'émission, vous nous mettez 5, si vous aimez pas, vous nous mettez 4, 4,5 peut-être même. 4, 4, 4,
Voilà. Si
5.
l'option existe de mettre même des plus proches de 5, vous mettez plus proche de
Voilà,
5.
la note la plus proche de
Voilà.
5, mais pas
Voilà.
5.
Mais vous
Ça,
mettez pas 5, sinon ça n'a pas de sens.
on aura compris le message. Voilà, c'est plus important. Merci Giscal.
Bah écoute, merci à toi aussi.
Et ben, on se donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Catch Up. Salut à tous!
Au revoir tout le monde.
Bah écoute, je vais te laisser parce que je vais retourner au taf
Ouais,
là.
moi aussi, il faut que j'y retourne vite là, parce qu'en fait c'était beaucoup plus long que je pensais, il faut que je me dépêche.